Jeudi, c'est jeudi environnement, alors je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Caroline Collin, elle est responsable des communications au Cobali. C'est un organisme qui travaille à la gestion intégrée de l'eau, entre autres pour le bassin qui verse dans la rivière du Lièvre. Bonjour Caroline.
Bonjour Audrey.
Aujourd'hui, tu vas nous parler des changements climatiques. Oui, parce qu'on en parle énormément, mais là, on veut savoir leur impact sur l'eau.
Oui, effectivement, comme tu l'as dit, on en entend beaucoup parler depuis quelques années. D'ailleurs, le Cobali avait organisé le printemps dernier un grand forum sur le sujet. En septembre, il y a eu la grande marche pour le climat à Mont-Laurier, comme dans plusieurs villes d'ailleurs à travers le Québec et à travers le monde. Puis tout ça, grandement inspiré par celle qu'on connaît, la jeune célèbre Greta Thunberg.
Oui.
Ensuite, dans les médias, il se passe à peu près pas une journée sans qu'on nous dise que bon, la planète se réchauffe, il faut stopper ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les glaciers et pour la calotte glaciaire qui fonde. Puis tout ça, ça fait monter le niveau de la mer et c'est un réel problème pour les populations qui habitent justement en bordure de mer. Puis récemment, on nous apprenait aussi que les gigantesques feux de forêt en Australie étaient une catastrophe amplifiée par le réchauffement du climat. Mais bon, pour nous ici, là, dans les Hautes-Laurentides,
oui,
c'est
ça, c'est important.
Quoi le problème avec les changements climatiques? Parce que dans le fond, c'est pas nous autres qui va se plaindre d'avoir un peu des hivers un peu moins frais, excusez l'expression, ou des étés un peu plus chauds, non? Mais bon, tu t'en doutes, c'est un peu plus complexe que ça.
Ah, j'imagine. Mais avant d'aller plus loin là-dedans, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce qui cause les changements climatiques en général?
Oui, dans le fond, le problème, ce sont les gaz à effet de serre, donc ce qu'on appelle les GES. Autant ils sont essentiels pour que notre planète soit habitable, parce qu'ils se trouvent à retenir la chaleur qui nous vient du soleil sur Terre, autant une trop grande quantité de GES vient rompre l'équilibre naturel, puis à ce moment-là, causer des dérèglements au niveau du climat. Puis même si on parle de quelques degrés seulement, ça a un effet boule de neige qui entraîne une foule de changements, des catastrophes naturelles, puis de nombreux bouleversements aussi pour la faune et la flore, sans oublier pour les humains, évidemment. Puis si ces fameux GES sont naturellement présents, le hic, c'est qu'avec nos activités humaines, on fait grimper en flèche la présence de ces GES-là.
Mm-hmm.
Pourquoi? En bonne partie, au Québec, à cause de nos moyens de transport, donc voitures, camions, avions, bateaux, trains, qui fonctionnent en brûlant des combustibles fossiles, c'est-à-dire du pétrole, du gaz, du charbon.
Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, par contre, des conséquences que les changements climatiques ont chez nous?
Oui, par rapport à l'eau, on peut mentionner les inondations. Évidemment, des inondations, il y en a toujours eu, mais c'est qu'avec les bouleversements climatiques, ça va venir amplifier le phénomène et le déplacer aussi à la période de l'année. C'est-à-dire que, on est habitué actuellement à avoir des inondations, surtout le printemps, lorsque la neige et la glace fondent. Mais d'ici 2050, ce qu'on risque d'avoir, c'est des inondations au courant de l'hiver ou même à l'été. Puis quand on connaît tout ce que ça représente comme coût, mais aussi tout ce que ça implique sur les plans sociaux et psychologiques pour les personnes touchées, c'est sûr que c'est un enjeu de santé majeur.
Mm-hmm.
Puis en fait, plus précisément, ce que les experts prévoient, c'est d'un côté des périodes sans pluie plus longues, l'été et l'automne, donc ça veut dire moins d'eau dans nos lacs et nos rivières, ce qu'on appelle la période d'étiage. Puis ça va durer plus longtemps qu'aujourd'hui aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a un risque pour l'approvisionnement en eau potable. Puis d'un autre côté, lorsqu'il va pleuvoir, ça va être des grandes quantités de pluie à la fois, donc ce qu'on peut appeler des pluies extrêmes. Donc, en plus du risque d'inondation, c'est sûr que la qualité de l'eau dans nos lacs et nos rivières risque de se détériorer parce que on se rappelle que la pluie, en ruisselant sur le sol, entraîne avec elle non seulement des sédiments, mais aussi des contaminants. Puis, pour ce qui est de l'hiver, c'est sûr que l'eau va tomber davantage sous forme de pluie que de neige, comparativement à ce que c'est actuellement. Donc, on devrait avoir moins de neige au sol, moins longtemps. Donc, c'est sûr que ça peut sembler intéressant, parce que ça va nous en faire moins à pelleter. Mais pour l'industrie touristique, c'est une autre chose. Par exemple, pour la motoneige ou la pêche sur la glace, entre autres, il risque d'y avoir des sérieux impacts au niveau économique. Puis, aussi, les cycles de gel des gels vont être plus fréquent durant l'hiver. Donc, il va y avoir plus de redoux. Puis ça, bien, ça va venir faire augmenter la facture pour l'entretien des chemins, des ponceaux. Donc, c'est sûr que ça va avoir des impacts économiques aussi pour l'industrie forestière.
L'augmentation de la facture, ça, c'est jamais positif. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider un petit peu?
Oui. Bien, en fait, on entend souvent parler de ce qu'on peut faire pour réduire nos émissions de GES, ce qui est évidemment très bien. Mais en parallèle, ce qui est important de faire aussi, c'est de mettre en place dans nos villes, dans nos municipalités, des moyens de s'adapter aux changements climatique parce que de toute façon, on en vit déjà les conséquences. Par exemple, une des façons de faire face aux inondations, c'est de mieux gérer nos eaux de pluie. C'est-à-dire, par exemple, pour y arriver, ce qu'on peut faire, c'est d'aménager des bassins de rétention qui servent à retenir les surplus d'eau. Et aussi, la conservation des milieux naturels, incluant les milieux humides, là, ce qu'on appelle les étangs, les marais, les marécages, les tourbières, c'est important aussi parce que ça peut... ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça remplit naturellement la même fonction, c'est-à-dire de retenir les surplus d'eau.
En même temps, Caroline, ça me fait penser à notre chronique, la dernière chronique qu'on a fait ensemble, justement, tu disais, essayez de juste pas toucher à votre terrain, puis quand il y a des choses de naturel, laissez-les comme ça.
T'sais. Effectivement. puis aussi, pour faciliter l'absorption au moins d'une partie de l'eau de pluie dans le sol, ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer de réduire les surfaces imperméabilisées, donc qui sont faites de béton ou d'asphalte, ou à tout le moins les aménager différemment pour mieux gérer l'eau qui circule là. Puis, il y a un principe aussi qui fait de plus en plus consensus en aménagement du territoire, c'est d'apprendre à respecter l'espace de liberté des cours d'eau plutôt qu'empiéter toujours un peu plus en construisant des bâtiments, des routes dans ces espaces-là.
Respecter l'espace de liberté des cours d'eau, ça me dit... c'est quoi, en fait? Comment on libère cet espace-là?
Oui, bien, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, l'espace de liberté d'un cours d'eau, c'est que tous les cours d'eau, de la plus grande rivière au plus petit ruisseau, ils ne demeurent pas identiques à travers le temps. Au contraire, ils sont dynamiques, donc c'est-à-dire qu'ils bougent naturellement, non seulement à travers les ans, mais aussi à l'intérieur même d'une année. Pour ceux qui sont férus là, de Google Earth, si on regarde les images satellites, on peut voir cette évolution-là qui va se dérouler sur des dizaines d'années. Donc, il va y avoir certains méandres, c'est des endroits où le cours d'eau serpente, qui vont être délaissés, tandis que le cours d'eau trouve une façon plus directe pour continuer son chemin. Puis on peut observer ça, par exemple, le long de la rivière Kiamika ou au ruisseau Serpent aussi à Notre-Dame-du-Lot. À ça, bien, s'ajoute une variation annuelle des contours, c'est-à-dire qu'en période de crue, on peut remarquer qu'une certaine bande de chaque côté d'un ruisseau ou d'une rivière va se trouver systématiquement inondée. C'est ce qu'on appelle la plaine inondable. Et les milieux humides aussi, qui sont en bordure, jouent un grand rôle parce qu'ils agissent dans le fond comme une sorte de tampon qui retiennent l'eau finalement dans ces espaces de liberté-là. Donc, il faut apprendre à connaître ça et à intégrer le tout dans notre urbanisme.
Et si on parle à plus petite échelle, est-ce qu'en tant que citoyen, on peut faire notre part un petit peu?
Certainement. Par exemple, on parle souvent des barils récupérateurs d'eau de pluie. En fait, ça sert, c'est ça?
À récupérer ouais, la pluie.
Qui provient de nos gouttières, ou on peut encore enfouir la fin des tuyaux de nos gouttières dans le sol ou diriger cette eau-là vers des milieux boisés pour faciliter, dans le fond, l'infiltration dans le sol de cette eau-là. On peut aménager aussi ce qu'on appelle des jardins de pluie sur notre terrain. C'est-à-dire que, dans le fond, ça sert non seulement à recueillir l'eau de pluie encore là, des zones imperméables, là, par exemple, de notre stationnement, mais en plus, ben, ça l'agrémente notre paysagement. C'est très joli. Puis enfin, ben, si on habite en bord d'un lac, d'un ruisseau ou d'une rivière, on revient avec la fameuse bande riveraine naturelle, donc qui est bien végétalisée puis d'une bonne largeur. Ça joue aussi un rôle important à cet égard-là.
Bien, merci beaucoup. On en sait déjà un peu plus sur qu'est-ce qu'on peut faire. On essaie, tu sais, d'améliorer les conditions de l'environnement le plus possible, mais au niveau de l'eau, c'était très intéressant. Et Caroline est parfaite pour ça. Merci beaucoup, Caroline Collin, pour une autre chronique aussi intéressante. Si jamais vous voulez en savoir plus, comme à l'habitude, vous allez sur le site web de Cobali, www.cobali.org, et sur la page Facebook de Cobali également. Bien, merci beaucoup, Caroline.
Merci à toi, Audrey.